Vous écoutez la matinale avec Christophe.
Bonjour à Grégor Péan qui est valdoisien et qui habite dans un petit village qui s'appelle Chauvry.
Bonjour.
Et vous connaissez bien le Val d'Oise puisque vos parents ont vécu une grande partie, notamment à Bouffémont. Votre maman Odile habite toujours cette commune valdoisienne. Votre papa est parti en 2019, un célèbre journaliste d'investigation. Il a écrit une multitude de livres. Vous avez pris peut-être un petit peu, en quelque sorte, sa succession. Vous l'avez vu, donc il a été peut-être aussi inspirant. Votre papa, donc je le reprécise, c'est Pierre Péan.
Oui, bah écoutez, moi j'ai grandi avec des livres qui sortaient régulièrement tous les ans, tous les deux ans. Il ramenait un livre, une de ses dernières enquêtes. Et en effet, l'objet livre, c'est quelque chose qui m'a toujours fait partie de mon univers. Après, moi j'ai pris la branche, on va dire, fiction, la branche romanesque. Et puis pendant une petite vingtaine d'années, je me suis appelé Jean Grégor pour à la fois avoir mon identité propre et voilà, pour séparer les deux. Mais
Se rapproche, c'est pas très loin, de toute façon.
C'est ça, de toute façon, Grégor Péan, Jean Grégor, voilà, ça se ressemble. Je me trahis pas, c'est ça que je veux dire. Et puis en 2018, j'ai eu la chance de faire un livre avec Pierre Péan, donc, sur la disparition des Juifs de Lituanie. Et ça nous a permis de faire ensemble quelque chose qui nous est cher, c'est-à-dire d'écrire quelque chose. Donc ça a été très beau, et d'autant plus que c'est le dernier livre qu'il a écrit. Et mon éditrice m'a dit, écoute, il est peut-être temps de changer de nom. Ton père t'a donné le relais, il est parti. Et puis j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et donc du coup, me voilà sous la vraie étiquette de Grégor Péan, puisqu'il ne s'en est plus un pseudo.
Donc sous le nom de Jean, il y a eu quand même une douzaine de romans, oui. Et là, sous le nom de Grégor Péan, il y a deux romans, hein, un qui sort en plus aujourd'hui.
Magnifique.
C'est pas tout à fait l'histoire de Youri Gagarine, on va en parler dans un instant. Bon, si vous retracez, mais vous êtes dans la peau, en fait, de ce célèbre cosmonaute.
Oui,
on fait toujours un peu la confusion entre astronaute, mais c'est cosmonaute, hein. Le 12 avril 1961, un vol dans l'espace, hein, pour lui. Donc c'est incroyable, c'est magique, mais derrière il y a aussi plein d'enjeux, bien évidemment. Et puis le livre qui était sorti avant, où là vous avez évoqué une autre personnalité aussi, la femme et je crois aussi la maîtresse d'Hitler, hein, Eva Braun.
Oui, j'avais fait une uchronie. Globalement, l'histoire, c'est je suppose que Eva Braun n'était pas morte dans le bunker comme la vraie histoire, et elle était capturée par les Russes. Et quand on sait la détestation absolue des Russes vis-à-vis de tout ce qui est nazi, évidemment, on peut imaginer une deuxième vie, puisque ça s'appelle la seconde vie d'Eva Braun, une deuxième vie d'Eva Braun pas rose. Et voilà, c'était ça c'était ça le sujet.
Elle servait Hitler, en fait, elle savait ce qu'il faisait à côté, mais elle restait bien sagement à la maison.
Oui, le destin d'Eva Braun, c'est quand même le destin d'une petite idiote, hein, je peux pas le dire autrement, qui s'est retrouvée une sorte d'impératrice d'un monde nouveau, puisque c'était le Troisième Reich, et qui n'a pas du tout cherché à comprendre, et qui n'avait qu'un objectif dans sa vie, c'était servir son maître. Et elle l'a fait jusqu'au bout, la preuve, elle est morte avec lui. Est-ce qu'on peut parler de complicité? Elle a jamais agi, on va dire, mais elle était un soutien sans faille, ne serait-ce que parce qu'elle n'a jamais chercher à savoir, quoi.
Vous avez fait des recherches, de toute façon, elle l'aimait quand même.
Ah oui, alors là, si elle l'aimait pas, ça serait compliqué, hein. Oui, c'était
non,
un amour passion,
peut-être certaines femmes,
admiration.
Qui aiment les hommes de pouvoir, qui les aiment sans les aimer, mais parce qu'ils ont du pouvoir, donc du coup.
Oui, alors bon, là, c'est vrai que les ressorts de l'amour, à ce niveau-là, je c'est difficile à dire. Il y avait quand même une fascination, cet homme, Hitler, a exercé une fascination sur des milliers, des millions, des dizaines de millions de personne, donc elle faisait partie de ces gens fascinés, et en plus elle avait cet entre guillemets ce privilège de l'approcher, de s'occuper de lui. Donc oui, les ressorts de l'amour, c'est compliqué quand on a on a affaire à des gens de pouvoir comme ça.
C'est très particulier quand même d'écrire sur un tel personnage, Eva Braun. Vous vous attaquez quand même à quelque chose de lourd qui a marqué tout le monde, même si effectivement elle n'était pas en action, mais la femme d'Hitler.
Oui, alors donc j'ai écrit ce livre parce que j'avais beaucoup de matière entre guillemets. J'avais travaillé énormément sur le livre que j'avais écrit avec Pierre. J'avais beaucoup de matière, j'avais lu énormément, j'avais rencontré des historiens et je me suis dit bon bah voilà, j'aimerais me servir de tout ce que j'ai emmagasiné pour faire quelque chose d'un peu plus fictionnel. Alors, et ce que je n'aimais pas trop, c'est la façon dont elle était partie d'une certaine manière, où même Hitler est parti, ils se sont suicidés, c'est une lâcheté terrible, au lieu d'affronter les vainqueurs, hein, les Russes, les Américains, etc. Donc j'aimais pas ça, donc j'avais envie de la secouer. Donc à la fois, oui, c'est un travail d'histoire, où j'ai travaillé l'histoire, et en même temps, je la sors de son sorte de piédestal et de son destin. Finalement, cette fin facile, hein, parce que se suicider, c'est rien de plus facile. Et j'avais envie de la secouer, quoi, de dépoussiérer ce personnage. Et voilà, c'est ce mélange d'histoire sérieux et de loufoque d'une certaine manière qui me plaisait.
La politique, du coup, vous avez baigné aussi dedans. C'est pour ça que vous choisissez un peu ce type de personnage. Votre papa, Pierre Péan, a écrit notamment sur Jacques Chirac, sur François Mitterrand.
Alors, je sais pas s'il était politique à fond. C'était quand même lui, son obsession, c'était de voir ce qu'il y a en dessous. Mitterrand, par exemple, il était pas du tout dans la détestation de Mitterrand. Bien au contraire, il a été vraiment séduit par ce personnage, mais il a voulu creuser et savoir quel était son passé. Et c'est ça qui l'a donné une jeunesse française. Pareil pour Chirac. Chirac, tout le monde le prenait pour un rigolo. Il passait sur Canal+, là aux marionnettes de l'info. Il se disait, c'est pas possible que qu'un homme à ce stade et à ce niveau de responsabilité soit vraiment un idiot. Donc il a creusé un peu et il a trouvé un personnage tout à fait extraordinaire, féru de culture orientale, qui parlait je ne sais combien de langues. Donc voilà, ce qu'il aimait, c'est aller creuser un petit peu en dessous des apparences.
C'est ce que vous faites vous aussi, vous essayez de creuser, vous choisissez aussi des personnages assez atypiques, Yuri Gagarine, Eva Braun, comme on l'a évoqué il y a quelques instants. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ces personnalités? Pourquoi vous les avez choisis?
Alors, pourquoi je les choisis? Bon, pour Yuri Gagarine, qui est le sujet du livre Le ciel t'attend, je trouvais que c'était un personnage totalement romanesque. C'est un fils de paysans, enfin de gens de peu, qui se retrouve en quelques années assis sur une fusée et qui va être le premier homme à bondir dans l'espace. Vie compliquée et mort à 34 ans. Donc je me suis dit, c'est un personnage de roman. Et en même temps, une biographie, tout sympathique qu'elle soit, ne révèle pas finalement les sensations, les sentiments. J'avais envie de creuser un petit peu, j'avais envie de savoir ce qu'il avait dans la tête, hein, tout simplement, les moments de vie compliqués. Quand on a été un petit gars du peuple, qu'on se retrouve demi-dieu, oui, j'avais envie de l'interroger. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est interroger les gens, les personnages historiques, et leur dire bon, bah, raconte-nous comment ça s'est passé, quoi. C'est ça un peu moi qui m'inspire et me motive.
Oui, parce que vous nous le dites pas, mais vous avez une passion aussi pour les avions.
Alors, j'ai une passion, oui, mais je travaille surtout, puisque ça fait 25 ans que je suis chef de piste dans l'aviation, et mon métier consiste à accueillir des avions, les mettre en bonne condition, les remplir de carburant, etc. Donc oui, j'ai une passion pour les avions, on peut le dire, qui est la preuve, j'en ai fait mon métier. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, à Bouffémont, justement, je regardais les avions qui passaient au-dessus de ma tête en finale, et j'ai rapidement été capable de reconnaître les avions.
Donc si vous vous êtes mis dans la peau de Yuri Gagarine, c'était aussi peut-être pour rêver de ça, d'être le premier homme à voler dans l'espace ? Est-ce que ça, c'est peut-être un objectif ou pas?
Non. Alors, je dois avouer que j'aime les avions, mais au sol. Moi, j'aime pas tellement voler. Ça va, les turbulences, avec ce qu'on a vu là récemment. Non. Moi, les avions, j'aime bien. Il y a une poétique de l'aviation que j'adore. C'est-à-dire qu'un avion qui s'envole, un avion qui atterrit, enfin, il y a une espèce de fascination pour cet objet très lourd qui parvient à s'envoler. Et pour Yuri, oui, non, je trouvais ça complètement fascinant. Un homme qui se lance dans un défi pareil. Enfin, je veux dire, des gars comme Yuri Gagarin, il est comparable à Christophe Colomb. Il y en a quelques-uns. On peut les compter sur les doigts de la main. C'est des vrais explorateurs. C'est des gens qui sont allés là où personne n'est allé. Voilà. Il y a Colomb qui a fait le continent américain et Gagarin qui fait l'espace. Et quand il faut quand même savoir que quand on l'envoie Gagarin, on ne sait pas s'il va survivre. Hein. On a envoyé des chiens, très bien. On a envoyé des rats, des mannequins, tout, mais un homme, on y va un peu à l'aveugle, et lui, il est tout content, il est tout sourire. C'est ça qui est extraordinaire avec ce personnage. C'est qu'il se pose le 12 avril 1961 sur des tonnes de TNT, puisque c'est des explosifs incroyables, une fusée. Et puis, il a le sourire. Il y a même des vidéos qui ont été faites de lui au décollage et pendant son vol, qui a duré 108 minutes, je crois. Et il a la banane, quoi. C'est complètement dingue. Alors qu'on est dans un défi, dans un défi comme il n'y en a pas, comme il y en a un par siècle, quoi. Donc, c'est ça qui me fascinait, hein. C'est ce bonhomme qui est face à un défi extraordinaire.
On va reparler de tout ça d'ici quelques minutes. Le ciel t'attend, c'est votre nouveau roman. La maison d'édition, c'est Robert Laffont. C'est pas n'importe quelle maison d'édition.
Ah, c'est très belle maison.
Comme le précédent livre aussi, sur Eva Braun.
Oui, je suis Robert Laffont. Je salue mon éditrice et je suis très heureux de faire partie de cette maison.
Donc on parlera aussi de vos prix. Vous avez été finaliste du prix Ouest France avec justement le livre sur Eva Braun. Vous serez en dédicace aussi sur le Val d'Oise. Ça tombe bien, ça nous intéresse puisque nous y sommes ici en Enghien-les-Bains. Il y aura deux séances de dédicaces où vous dédicacerez Le ciel t'attend qui sort donc aujourd'hui, consacré à Yuri Gagarin, le célèbre cosmonaute russe, dédicace à samedi 13 et aussi jeudi de la semaine prochaine, le 18, à la fois à Bouffémont mais aussi à Taverny. 8h27 sur IDFM Radio. Aujourd'hui, nous sommes avec l'écrivain, romancier, on peut dire aussi un peu, Grégor Péan.
Tout est possible.
Tout est possible, parfait. On repart en musique avec maintenant Esmé.
Chaque visage, mais le tien était plus beau. Je voudrais revenir à nos photos. Je me mets à courir.
You and me, English girl in an American town. Over the beta to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet up. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. English girl in an American town.
La matinale sur IDFM Radio, c'était Ed Sheeran. Nous sommes toujours avec Grégor Péan. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Écrivain, vous habitez depuis quelques années à Chauvry. Vous avez sorti aujourd'hui. Là, il va être disponible. Bah, il est déjà disponible de toute façon en format physique. Hein. Aujourd'hui, c'est un passage obligatoire aussi. Hein.
Oui, bah, sortie du livre aujourd'hui, c'est pour ça, c'est extraordinaire. Primauté donc, IDFM.
En physique et aussi en digital. Donc, ouais. C'est un roman, je le reprécise, consacré à Yuri Gagarin. Donc le 12 avril 1961, il se passe quelque chose d'extraordinaire pour le monde, pas que oui. Pour lui, bien évidemment, puisque pour la première fois, un homme a volé dans l'espace.
Oui.
Et c'est fou parce que ça se passe dans les années 60. On aurait pu se dire, ah, c'est peut-être trop tôt ou je sais pas, ou ça aurait pu arriver beaucoup plus tardivement.
Alors, on est dans un contexte après-guerre où l'idée de Staline, c'est quand même de pouvoir envoyer une bombe atomique sur le oui. coin du nez de ses ennemis. Il faut rappeler qu'en 45, les Américains envoient une bombe sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Donc, c'est eux pour l'instant qui ont la main sur l'arme atomique. Donc Staline, qui est pas le dernier des paranoïaques, estime que s'il a pas ça, il sera pas la grande puissance qu'il veut diriger. Donc on est dans une course. Là, il y a la bombe atomique d'un côté et en même temps il y a le support pour envoyer cette bombe atomique. Et les gens qui travaillent sur ce support, ça va être donc des gens qui vont travailler sur des fusées. C'est d'abord des roquettes pour envoyer des armes, et ensuite ça devient, par l'opération un peu compliquée, voilà, de à la fois du hasard et à la fois de certaines personnes qui se trouvent à cette place, on propose, notamment Sergueï Korolev propose d'envoyer un satellite, c'est-à-dire une boule de 80 cm de diamètre métallique qui s'appelle Spoutnik. C'est quand même un nom qui a marqué le 20e siècle. Et donc en 57, les Russes, donc qui sont quand même très forts avec leur fusée Semyorka, envoient le Spoutnik, et là c'est une claque, c'est une fessée déculottée pour les Américains. Parce qu'il se retrouve, même si c'est une petite boule de métal de 80 cm de diamètre, il se retrouve avec quelque chose qui vole au-dessus d'eux. Et là, les Américains sont furieux. Et c'est vraiment le début de la course, la course spatiale entre la compétition spatiale entre les Américains et les Russes. Et c'est vrai que jusqu'en 67-68, les Russes vont être les premiers. Ils vont être les premiers à envoyer un chien. Ils vont être les premiers à envoyer un homme, pour le coup, avec Yuri Gagarin, puis une femme, puis un couple, puis etc. Ils vont être très forts. Et puis c'est aussi ça qui va être un pygmalion pour les Américains, qui va les motiver et qui va générer le discours de Kennedy qu'on connaît à l'université de Houston, où il dit voilà, je vous dis qu'à la fin de la décennie, avant la fin de la décennie, on enverra un homme sur la Lune. Parce que si vous voulez, à partir du moment où les Russes sont les premiers à avoir exploré l'espace, il fallait donner un défi plus important, plus fort, et marcher sur la Lune, ça a été l'objectif absolu. Et d'ailleurs, ils ont réussi. Et en fait, les Russes se sont fait dépasser. Il y a eu deux trois événements. Il y a eu la mort de Korolev, donc l'ingénieur vraiment qui est à l'origine de la fusée dans laquelle se retrouve Yuri Gagarin. La mort de cet ingénieur. Et puis voilà, il y a eu des ambitions qui n'ont pas été les bonnes. Il y a eu des choix qui n'ont pas été les bons. Ils ont voulu construire une fusée énorme, mais ils n'en avaient plus les moyens, alors que de l'autre côté il y avait quand même Werner von Braun, qui était un transfuge quand même, il faut savoir que c'était un Allemand, qui est devenu le patron de la section fusée aux SS de la NASA, et c'est grâce à lui, hein, il faut savoir que c'est grâce à lui, Werner von Braun, donc un ancien SS, hein, un ancien nazi, qui a pas spécialement de sang sur les mains, mais qui est quand même qui est un transfuge à Allemagne et pour aller aux États-Unis, c'est quand même lui qui chapeaute le programme et on aboutit à Neil Armstrong qui pose le premier pas sur la Lune.
Yuri Gagarin était destiné finalement ou pas à voler?
Lui, alors lui se retrouve dans cette course. Lui il comprend rien. C'est un jeune pilote. Il a 200 heures de vol. Il est pas loin de la mer de Barents. Il fait froid là-haut. Aujourd'hui, on est des rigolos avec nos moins 2 degrés. Mais là-bas, il fait -20, -30. Il fait des tours de piste avec des petits MiG. Il apprend à voler. Et il y a une tripotée de gars qui cherchent en fait à créer une section toute nouvelle, évidemment, de gens qui vont être capables de voler dans l'espace. Et donc il se retrouve face à quelques colonels, il passe l'entretien et il se trouve que ça leur convient tout à fait. D'abord parce que il est sympa, il est sympathique, hein, il y a une dimension quand même de promotion de l'idéologie communiste et quand même voilà de diffuser un peu la bonne parole, qui est très importante. Ensuite, il est petit et il faut savoir que voilà l'ingénieur, il dit moi je peux pas mettre un grand monsieur dans cette capsule. Il est toujours positif, voilà, il a pas de vrais défauts, disons qu'il peut être un personnage public après l'exploit. Donc il est sélectionné. En plus, il s'appelle Gagarin, et il faut savoir Gagarin, c'est une espèce de d'onomatopée russe, où c'est comme si on faisait af quoi, on s'esclave quoi en disant Gagarin, Gagarina. Et donc il est sélectionné, il fait partie des 3000 sélectionnés, et puis ils les mettent dans des centrifugeuses, dans des isoloirs, enfin c'est des trucs de torture quasiment, leur centre d'entraînement, et il en reste 20. Et parmi les 20, voilà, on est dans le peloton de tête. Et parmi les 20, ils vont hésiter longtemps. Khrouchtchev va dire à Sergueï Korolev, l'ingénieur, il va dire écoute, c'est votre choix qui sera le bon. Finalement, il y a quand même un aspect, c'est ça qui est intéressant avec Gagarine, c'est un aspect sympathie, capital sympathie qui l'emporte sur tout. Parce que c'est pas le meilleur, hein. Il est pas le meilleur à la course, il est pas le meilleur à la piscine, etc. Mais il y a le capital sympathie qui l'emporte sur tout. Et donc il se retrouve, lui, dans le tourbillon de cette conquête spatiale, et puis il est entraîné, et puis un beau jour, avec son harnachement, alors ils embrassent tout le monde sur la bouche à la rue, c'est ça qui est drôle. Tout ce qui est virus, hein, ça, c'est mis de côté. Et puis, il monte sur sa fusée. Il fait 108 minutes de vol spatial, hein, quand même. Il monte jusqu'à pas loin de 300 km, quand même. Donc, c'est quand même exploration de l'espace. Il revient. L'atterrissage se passe bien, avec un parachute, bien sûr. Et là, il devient donc ce petit gars de Smolensk. Ce petit gars du peuple, il devient un demi-dieu. C'est l'époque des Beatles, hein, les années 60, hein, c'est où on transfère, on va dire, le fanatisme entre guillemets religieux à un nouveau fanatisme. Et il y a les Beatles et il y a Yuri Gagarin, quoi. Et Gagarin, il va faire des voyages à travers le monde et des foules ici, même ici, hein, au Bourget. Hein, au Bourget, il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'attendaient en héros, qui veulent le toucher, lui arracher des cheveux. Et donc voilà, ce petit gars, il s'est retrouvé dans l'œil du cyclone. Et après, ce que je traite un peu dans mon livre, c'est quand même, faut assumer tout ça. Hein. Quand on est un demi-dieu, quand on est, on passe son temps à être invité, à boire du champagne, parce que voilà, c'est aussi ça, le boire du champagne et de la vodka, parce qu'il y a quand même une culture russe qui fait que quand on vous invite à boire un verre, si on boit de l'eau, c'est mal poli.
Est-ce qu'il a perdu pied ou pas en faisant des recherches? Vous avez vu s'il a pris un petit peu de melon?
Oui, alors c'est très intéressant. Non, alors pour le coup, il a pas pris le melon. Ça, c'est un personnage que je trouve assez fascinant là-dessus. Son obsession, c'est de rester un gars simple. Voilà, c'est vraiment, il le dit et il le prouve. En revanche,
il avait toujours le sourire.
Toujours le sourire, ouais, il est toujours positif. C'est-à-dire que d'abord il était comme ça, c'était sa nature, et ensuite il faut savoir que l'entraînement cosmonaute, finalement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. C'est un optimisme forcené à être cosmonaute, c'est de dire non, mais on est dans des conditions folles, mais tout va bien se passer, on va s'en sortir, etc. Et donc à la fois il reste simple, mais à la fois c'est dur, hein, parce que il y a une sollicitation permanente. Il y a la sollicitation donc de l'alcool, il y a la sollicitation des femmes. Il faut savoir que quand il arrivait dans un pays, n'importe quel groupie ne désirait qu'une chose. Trois petits points, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc
sauter dessus.
Voilà, c'est ça. Donc il y a l'alcool, il y a les femmes, et puis il y a qui je suis, qui je deviens. C'est-à-dire que Yuri, il a l'impression après de profiter d'être toujours dans les fêtes, dans les débats, conférences, etc., devant des milliers de personnes, et que c'est pas quelque chose qui lui plaît. Lui, il a envie de continuer à voler, il a envie de choses concrètes. Et en plus, il a l'impression d'être un usurpateur, c'est-à-dire qu'il vole 108 minutes. Et juste grâce à 108 minutes, imagine, vous faites quelque chose pendant 108 minutes et on vous regarde en vous adulant, et donc Yuri il dit non mais attendez, moi d'abord c'est pas moi qui ai construit la fusée, je n'ai volé que 108 minutes, et puis voilà, donc il veut retourner aux affaires, mais sauf que y a tout le monde qui veut voler, lui il a volé, il a pris la vedette d'une certaine manière, donc il est un peu entre deux eaux, il va essayer de s'accrocher, et il s'accroche, il y parvient. C'est difficile, hein. Il y a des nuits de cuite durs, hein, qui sont pas officiels. Il y a le couple qui a quand même, que c'est quand même compliqué, mais il s'accroche et il devient, il fait partie des responsables.
C'est pas ça qui l'a tué quand même, non. La célébrité ou quoi que ce soit, parce que il est mort jeune. Hein.
Il est mort très jeune, 34 ans. C'est pour ça qu'aussi j'étais attiré par ce personnage, parce que grandeur et décadence, quoi. Alors il est pas dans le club des 27, mais il est pas loin quoi. Non mais il s'accroche et son idée en fait c'est de revenir dans ce monde entre guillemets simple des pilotes quoi, des cosmonautes et des pilotes.
Vous avez quand même pas mal de points en commun avec lui. Vous avez évoqué le Bourget, vous êtes chef de piste depuis quelques années.
Oui, mais ça s'arrête là. J'ai pas son courage, je suis pas dans le l'œil du cyclone comme lui. Alors est-ce que je suis optimiste? Oui, c'est vrai que je pense être optimiste. Et d'ailleurs dans mon métier où on place des avions et où c'est parfois un peu compliqué, il faut être optimiste. Mais ça va s'arrêter là.
Nous sommes avec Grégor Péan, je le reprécise, écrivain du Val d'Oise. Vous serez en dédicace pour présenter donc ce roman qui sort aujourd'hui, Le ciel t'attend, consacré à Youri Gagarin, samedi à Bouffémont.
Oui, alors c'est le matin, je crois que c'est 10h, l'office municipal de la culture, enfin la médiathèque le Bouffémont, et Taverny
jeudi
18 à 18h30 chez Marion, qui est la patronne de la petite librairie Les Bonnes Feuilles, excellente librairie qui dynamise un peu la vie culturelle de Taverny.
Après Youri Gagarin, il y avait eu aussi, je le reprécise, Eva Braun, donc la femme d'Hitler, sa maîtresse, sa femme, hein, les deux à la fois. Il y a une série comme ça de livres que vous avez envie de sortir sur des personnalités un peu hors normes.
Écoutez, un livre c'est une envie, et une envie ça vient... on ne sait pas comment. Donc pour Eva Braun, je vous l'ai dit, c'était j'avais envie de dépoussiérer, j'avais envie de la prendre par le col et la secouer, lui dire attendez, vous moquez de nous là, Eva. Pour Gagarin, c'est vrai que comme je vous ai dit, son destin me fascinait et je n'étais pas satisfait par les biographies qui étaient globalement hagiographiques, comme on dit. Hein. Tout était merveilleux, etc. J'avais envie de creuser un peu, j'avais envie d'être proche de lui d'une certaine manière. Et qui sait si je vais tomber sur un personnage qui va me donner l'envie, ça c'est autre chose aussi. Oui.
Eh ben merci beaucoup d'être passé sur IDFM Radio. Vous avez reçu des prix aussi, vous avez été finaliste du prix Ouest France, notamment pour le roman sur Eva Braun. Il y a peut-être des concours là aussi pour le nouveau, Le ciel t'attend, ça va venir par la suite.
Ah bah on espère.
Alors vous attendez pas ça, mais je veux dire après c'est des lecteurs, c'est des professionnels qui vont décider.
Les prix c'est surtout des lecteurs, c'est ça qui, parce que les gens se font confiance quand il y a des petits bandeaux et c'est ça qui compte. C'est être lu, vous savez, quand moi c'est mon 15e livre, on n'a plus qu'une idée, c'est d'être lu, parce qu'on sait que quand on est lu, les gens sont contents. Voilà, donc voilà.
Allez, une dernière question. Bien évidemment, vous écrivez pour vous dans un premier temps, mais vous réfléchissez aussi à écrire d'une façon particulière pour les autres.
Oui, bien sûr. J'écris pour moi, oui. Alors moi, je sais que je suis un raconteur d'histoire. Je sais faire. Voilà, c'est mon métier. Vous avez votre métier. Je crois que dans ce domaine, je suis pas mauvais. Et je suis pas mauvais notamment parce que j'oublie pas le lecteur. Je veux qu'il ait envie de continuer à lire l'histoire. Je veux qu'il ait envie de tourner la page. Je veux qu'il sourie. J'ai pas envie de l'endormir. Je veux qu'il voyage. Et là, pour le coup, c'est un beau voyage hein, avec Youri. Donc l'envie, oui, j'écris pour un ensemble de choses, quoi. Mais c'est vrai que j'ai quand même une passion pour capter. Voilà, capter. Quand vous racontez une histoire, vous avez un auditoire, tout d'un coup, vous avez un silence, vous avez des gens qui vous regardent. On recherche un peu la même chose avec l'écriture.
Merci beaucoup, Grégor Péan. Bon retour à Chauvry, je le reprécise. Notamment, ce samedi à 10h, vous serez sur la commune de Bouffémont, ça va, c'est juste à côté de Chauvry, à 10h, au Centre culturel pour dédicacer votre dernier roman, oui. Le ciel t'attend.
Merci beaucoup.
À bientôt sur IDFM Radio, 8h53.
Ya no quiero estar sin ti.